Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. De nos jours, on peut facilement utiliser les termes de fake news, de complot, de conspiration, de complotisme ou encore de conspirationnisme. Mais y a-t-il des différences de sens entre ces mots? Et si différences il y a, quelles sont-elles? Je vous propose aujourd'hui la réponse apportée par Marie Pelletier, historienne et spécialiste du complotisme, dans cet extrait de l'entretien qui sera disponible en intégralité sur le podcast d'ici quelques jours. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene.
Qu'est-ce qu'on appelle conspirationnisme, complotisme? Il y a une différence ou est-ce que c'est des synonymes?
Moi, je considère que ce sont des synonymes. Alors après, on peut rentrer dans des querelles d'experts où chacun a sa définition, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on parle les choses dans le débat public. Et actuellement, dans le débat public, complotisme et conspirationnisme sont utilisés dans un sens très similaire. Il faut savoir qu'il y a quelques années, justement, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, on parlait surtout de complotisme. Ça, j'ai vu aussi un tournant depuis, je dirais, depuis Trump, en fait, où on a commencé beaucoup plus à utiliser le terme conspirationnisme, je pense, justement, influencé par le monde anglo-saxon et le terme conspiracy, etc. Je pense que ce glissement, il est surtout dû au tournant de Trump, etc., et à l'influence du débat public américain sur les opinions publiques européennes. Voilà, moi j'aime bien, en fait c'est marrant parce que moi je préfère le terme complotisme parce que je trouve que ça décrit plus un imaginaire politique, mais je dois constater que de plus en plus je dis conspirationnisme parce que je m'adapte au débat public, tout simplement.
C'est une question, en fait je sortais un bouquin il n'y a pas très longtemps sur les complots et on me pose toujours cette question, c'est quoi un complot?
Déjà, il y a un truc qu'il faut dire, parce que moi, ça me frappe beaucoup quand je donne beaucoup d'interviews, de conférences, etc., etc., et ou même des colloques universitaires, et je remarque que beaucoup de gens confondent complot et complotisme, ce qui est catastrophique sur un plan sémantique, parce que ça n'a vraiment rien à voir. D'abord, le complotisme, je vais d'abord dire complotisme pour faire la différence avec complot. Le complotisme, c'est une croyance. Complotisme, c'est un postulat. C'est postuler que derrière ce qu'on nous dit, il y a une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés. Ça, c'est vraiment la logique du complotisme. C'est postuler que derrière le récit perçu comme officiel, il y a en fait une mise en scène au service d'intérêts cachés. Un complot, par contre, c'est une mise en scène au service d'intérêts cachés. Mais c'est pas croire que... c'est une réelle mise en scène au service d'intérêts cachés. D'où directement cette fameuse question qui vient toujours avec la première, c'est est-ce que les complots existent? Ben oui, évidemment. Enfin, pour moi, ça me semble toujours marrant comme question parce que la nature humaine est suffisamment éloquente. Je le dis parfois en boutade, on complote tous au quotidien, en quelque sorte. On défend tous nos intérêts, on essaye tous de trafiquer un peu la réalité. Enfin, j'exagère un peu, mais évidemment que, et même des complots politiques, évidemment que ça a existé dans l'histoire. Mais le complotisme, c'est autre chose. C'est traquer le complot. Et donc, on n'est pas dans le même univers politique et dans le même postulat.
Et d'ailleurs, derrière cette traque, est-ce qu'il n'y a pas finalement, comme je le disais tout à l'heure, on dit le conspirationnisme, le complotisme, ça peut être péjoratif. Est-ce qu'il n'y a pas justement une recherche de vérité qui pourrait être plutôt saine finalement au départ?
Oui, et qui parle d'ailleurs beaucoup, je pense, d'une recherche de vérité qui est exacerbée là maintenant dans ce contexte actuel, où en fait il y a un désir de vérité parce qu'il y a une impression d'être manipulé. Bon, cette impression d'être manipulée est elle-même très fort instrumentalisée idéologiquement, mais je pense qu'il y a une soif de transparence, en tout cas très grande dans le débat public, et je dirais aussi une soif d'éthique. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis des années et qui est parfois un peu inaudible, mais pour parler beaucoup avec des gens qui ont des pensées conspirationnistes, on va dire, parce que moi, ça fait des années que beaucoup de gens conspirationnistes m'écrivent, parce qu'il faut savoir que je les parle avec eux sans aucun problème. Je remarque que ce qui les anime, au niveau valeur, j'ai envie de dire, et même au niveau émotionnel, c'est souvent un désir de justice, un désir de vérité, un désir d'équité. Alors évidemment, à mon sens, totalement dévoyé, hein. Mais je pense qu'il faut pouvoir entendre la soif, qui n'est pas une soif individuelle, à mon avis, qui est une soif collective actuellement, en fait, qui est une déception à l'égard du récit démocratique ou de la manière dont la démocratie fonctionne, et en fait, une soif que la démocratie soit beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le type de narratif qui est épousé n'est pas tellement au service de la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'intention, personnellement, je la vois, de vérité, de transparence, de justice aussi.
Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut qualifier de théorie du complot ? C'est justement un argumentaire qui est avancé et qui finalement n'est pas perçu comme officiel ou qui n'est pas perçu, qui a été démenti, qui a été repoussé par la preuve ?
En fait, il y a une temporalité aussi dans la théorie du complot. C'est-à-dire que, bon, d'abord, avant toute chose, c'est que tous les événements ne génèrent pas de théorie du complot. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, les théories du complot, elles émergent seulement sur des événements qui sont symboliques, qui ont une très forte charge symbolique. Et plus un événement est chargé symboliquement, plus les théories du complot vont venir essayer de détruire le symbole. En fait, pour moi, c'est une tentative de destruction du symbole. On reviendra au 11 septembre 2001 tout à l'heure. Mais donc, une théorie du complot, c'est effectivement un récit, moi j'aime toujours bien l'angle du récit, un autre récit sur l'événement que celui qui est proposé, on va dire, que celui qui s'est imposé. Et ce récit, il est de dire, en fait, ce qu'on vous a dit de cet événement est faux. Et effectivement, à partir de quand peut-on qualifier un récit de théorie du complot ? Ça, c'est toute la difficulté. Parce que, si on veut être tout à fait honnête, il y a peut-être des choses qu'on qualifie de théorie du complot qui, ultérieurement, pourront être vus comme un récit qui avait une part de vérité. Donc, ce n'est pas noir ou blanc. Mais là, à mon avis, où on peut avoir deux éléments qui nous permettent de distinguer, c'est d'abord le rapport aux faits, bien évidemment. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des faits là-dedans. Il n'y a pas que des récits, il y a des faits. Et la deuxième chose sur laquelle moi je travaille beaucoup, c'est la question de la sémantique. C'est-à-dire qu'une théorie du complot, elle est souvent construite de la même manière. Elle part des mêmes postulats, elle désigne à l'avance les mêmes coupables, typiquement la CIA, par exemple, d'emblée, un certain nombre de personnes vont penser que derrière toute une série d'événements, ça va toujours être les Américains qui sont derrière, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une trame narrative qui permet de distinguer une théorie du complot d'un récit explicatif, on va dire, normal et sain. Mais ce n'est pas toujours noir et blanc. Et bien évidemment que on peut parfois qualifier un peu trop vite de complotiste certaines choses. Ça, c'est clair. Moi, j'en fais les frais aussi, hein, comme je m'exprime dans le débat public, etc. Quand je critique un discours politique ou un discours médiatique, etc. Je remarque que maintenant, on utilise la lutte contre le complotisme pour me dire aussi « Ah, mais ce que vous dites, en fait, c'est complotiste parce que vous êtes en train de postuler que le journaliste, il a menti et tout. » Non, c'est pas complotiste, mais en tout cas, on a le droit aussi de critiquer certaines choses et peut-être que oui, peut-être qu'à certains moments, moi-même, sans m'en rendre compte, on peut tous se faire la réflexion, on peut sombrer dans quelque chose où on récupère certains postulats conspirationnistes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas noir et blanc. C'est encore une fois, c'est un logiciel qui aujourd'hui est tellement massif qu'à mon avis, personne ne peut être immunisé, ne peut se prétendre immunisé et ne peut dire « moi, je ne vais jamais sombrer dans une théorie du complot ». Je pense qu'on peut, alors il y a des degrés, hein, on ne va pas tous adhérer aux trucs les plus extrêmes, on est bien d'accord. Mais il y a aussi, moi, ce que j'appelle le complotisme soft, qui nous oblige à tout le temps surveiller aussi nos propres paroles, nos propres positions et nos propres angles morts, parce qu'on a tous nos angles morts.
Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.